Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondiaz, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
On peut parler et je vous avoue que si ce n'était que moi, je ne parlerais même pas. Je resterais simplement là à adorer le Seigneur et à... Parce que pour moi, le véritable culte, c'est le culte que l'on rend à Dieu à 100%. Mais on est obligé d'arrêter un moment de faire le culte dans ce sens-là, parce qu'il faut qu'il y ait toujours un temps d'échange, un temps de parole. Mais je vous assure, si ce n'était juste que moi, on pourrait rester là pendant 2 heures à chanter, à adorer, à prier. Pour moi, c'est le véritable culte, en fait. Et puis, on ressort de là rempli, restauré, revigoré et prêt pour aller combattre dehors. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi à la conquête des promesses? Encore une fois, à la conquête des promesses. À la conquête des promesses. C'est le thème sur lequel nous sommes depuis début janvier. C'est un thème passionnant. À qui cela fait du bien? À tous ceux qui ont déjà écouté l'enseignement. À qui cela fait du bien? Et au travers de cet enseignement, le Seigneur nous montre beaucoup de choses. Il nous montre beaucoup de choses et aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'atterrir sur la première partie. On va toujours rester là-dessus. Je prends le temps d'insister là-dessus parce que tout simplement, c'est très important de comprendre ce que Dieu attend de nous. Pour beaucoup d'entre nous, on n'expérimente pas, on ne vit pas ce que le Seigneur a prévu pour nous parce qu'on ne comprend pas. Parce qu'on ne comprend pas la parole, parce qu'on ne comprend pas, l'alliance que nous avons avec Dieu, on ne comprend pas notre identité en Christ, on ne comprend pas beaucoup de choses, c'est ce qui nous amène à ne pas expérimenter un certain nombre de choses qui sont contenues dans la Bible. Parfois, ça nous arrive de dire, pourquoi lui, il vit ça et pas moi? Pourtant, moi, je n'ai rien de moins que lui, je ne suis pas différent de lui, mais comment lui arrive-t-il à vivre telle promesse et moi, je n'arrive pas à le vivre? C'est peut-être parce que lui, il a compris quelque chose que toi, tu n'as pas compris. Et le Seigneur nous a conduits dans le livre de Josué, au chapitre 1, 2 et 3, pour comprendre, en fait, au travers de cette histoire, dans quelle direction Dieu voulait nous emmener en cette nouvelle saison, en cette nouvelle année. Amen. Nous avons commencé à enseigner, à donner ce message à la conquête des promesses, le 12 janvier de cette nouvelle année. Et pour ne pas revenir sur l'histoire, parce que c'est assez long l'histoire de Josué et des Juifs lorsqu'ils se mirent à traverser le Jourdain, lorsqu'ils s'apprêtaient à aller à Canaan. Nous avons commencé à donner ce message le 12 janvier. Et il va se passer quelque chose de très important lorsque les Juifs vont traverser le Jourdain. C'est que Dieu va donner des instructions claires. Les instructions que Dieu va donner à Josué, qui était le nouveau leader du peuple, c'est que vous allez aller à Canaan, c'est la terre promise, c'est la terre que je vous ai promise, c'est la terre des promesses, mais avant cela, vous allez passer par le Jourdain. Je vais diviser le Jourdain en deux, les sacrificateurs vont se mettre avec l'arche au milieu du Jourdain, et tu vas sélectionner 12 personnes au milieu du peuple, un de chaque tribu, et ils vont prendre chacun une pierre là où les sacrificateurs seront debout en plein milieu du Jourdain. Ils vont prendre ces 12 pierres et ils vont aller en faire un autel au sortir du Jourdain. Josué reprit 12 autres pierres et les remit à la place pour remplacer les autres. Pendant ce temps, le peuple passait. Et au travers de ce passage, le Seigneur nous montre que ces 12 pierres-là avaient une signification. Vous savez, il y a beaucoup de passages que l'on lit dans la Bible, et parce qu'on ne les comprend pas, mais on passe dessus très vite. Ça vous est jamais arrivé? Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, je suis sûr que la plupart d'entre vous, lorsque vous lisez certains livres de l'Ancien Testament, où il y a au moins 4, 5, 6 pages, où il y a juste des noms. Nom de Élisuel, descendant de Élisuel, avec plein de noms juifs, etc. Et puis, c'est des pages et des pages et des pages de noms. Et puis, parfois, moi, un jour, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tous ces noms? Parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Ce sont des gens qui sont morts depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte quand je lis la Bible? Et un jour, Dieu, j'avais une pensée, le Seigneur me disait, mais si je prends le temps de mettre le nom de ces personnes-là, c'est parce que ces personnes-là ont travaillé. Elles ont payé le prix et leur nom est inscrit aujourd'hui dans le livre de vie. Et il faut que tu saches que telle et telle personne a travaillé et a payé le prix pour que toi, aujourd'hui, tu puisses lire cette Bible-là. Amen. Et demain, toi aussi, ton nom, si tu fais ce qu'il faut, sera inscrit dans le livre de vie. Et ces 12 pierres, nous avons commencé à étudier ces 12 pierres. La première instruction que Dieu a donnée à Josué, alors je vais aller droit à l'essentiel. La première instruction que Dieu a donnée à Josué, c'est parcours le camp et dis au peuple de se consacrer. Car bientôt le peuple va entrer à Canaan pour conquérir les promesses. Consacrer. Est-ce qu'on peut dire avec moi consécration? La consécration. Et la consécration, le Seigneur nous a montré au fil des semaines que c'est un aspect extrêmement important pour marcher avec Dieu. Personne ne peut travailler et réussir avec le Seigneur s'il ne se consacre pas. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas une vie consacrée, voire qui vivent dans le péché et qui s'attendent à ce que Dieu fasse des miracles dans leur vie. Mais j'ai déjà dit et je le répète que Dieu ne se mouvoit pas dans le péché. Dieu ne se manifeste pas dans le péché. Dieu réprime le péché. Et quand Josué va vers le peuple, il donne cette instruction-là au peuple. Il dit, voilà, vous allez aller à Canaan et vous allez combattre. Vous allez combattre et les combats que vous allez mener ne seront pas faciles. Ce n'est pas parce que Dieu vous a promis la terre promise qu'il va vous la donner comme ça. Vous allez devoir vous battre pour prendre ce qui vous appartient. Et c'est pareil dans la vie. Ce n'est pas parce que tu mérites le meilleur dans la vie que la vie va te le donner facilement. Tu vas devoir te battre pour avoir ce qui t'appartient dans la vie. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Oui, tu vas devoir te battre. Mais, est-ce qu'on peut dire avec moi, mais? Tout est spirituel. Tout est spirituel. Tu ne pars jamais comme ça au combat sans avoir consulté Dieu d'abord sur ta vie. Et c'est ce que Josué fit. Josué alla consulter Dieu et Dieu lui a donné des instructions qu'il a ensuite communiquées au peuple. Et Dieu lui a demandé de poser des actes prophétiques. Dieu lui a demandé de poser des actes prophétiques. Et l'acte qu'il a posé était de prendre ces 12 pierres-là. Et ces 12 pierres-là représentaient simplement un acte qui lui a amené à sceller en fait le combat tous les combats qu'ils allaient mener à Canaan. Amen. Et lorsque Josué va prendre les pierres, il va dire au peuple une phrase. Il va dire, lorsque vous allez sortir du Jourdain et que vous allez aller à Canaan, que vous allez y vivre, demain vos enfants vont vous demander que signifient ces 12 pierres que vous avez prises. C'est la question que les enfants poseront à vous, les pères. Amen. Donc, chacune de ces pierres, le Seigneur nous a montré que chacune de ces pierres signifiait quelque chose. Nous avons commencé à donner cet enseignement le 12 janvier. Le chiffre 12, nous avons dit que c'est le chiffre qui représente le gouvernement. Il y a 12 tribus en Israël. Josué a pris 12 pierres. Il a demandé à 12 hommes de le faire. La nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 piliers. Jésus-Christ a organisé son gouvernement avec 12 personnes, 12 apôtres. Il y a 12 mois dans l'année. Est-ce que tu le sais? 12 mois dans l'année. Et dans le mot consécration, il y a combien de lettres? Il y a 12 lettres dans le mot consécration. Et le Seigneur nous montrait que dans chacune de ces lettres signifiait quelque chose, signifiait une étape, signifiait une bénédiction que chacun d'entre nous allions tirer de notre intimité avec le Saint-Esprit. Pour revenir rapidement sur l'intimité, le fait que le peuple passait par le Jourdain, nous avons dit que c'était une expérience personnelle que Dieu voulait avoir avec chaque juif pour pouvoir aller ensuite au combat. Et c'est pareil dans la vie. L'arme la plus puissante que tu puisses avoir pour conquérir les promesses en cette nouvelle année, c'est l'intimité que tu auras avec le Saint-Esprit. On peut faire beaucoup de choses dans la vie. On peut être très talentueux, on peut être très compétent. Mais si on n'a pas une communion personnelle avec le Saint-Esprit, je vous assure, on échouera. Parce que le Saint-Esprit, c'est le conseiller. Le Saint-Esprit, c'est le guide, c'est le paraclétos. C'est lui qui connaît tout. C'est lui qui sait ce dont tu as besoin. C'est lui qui sait ce qui est mieux pour toi. Et c'est pour cela que tu dois aller toujours le consulter. Et tout comme les Juifs sont passés par le Jourdain pour avoir une expérience personnelle avec Dieu, de même Jésus-Christ aussi passa par le Jourdain, alla se faire baptiser où ? Dans le Jourdain. Ensuite, il alla dans le désert et ensuite, il commença son ministère. Nous avons dit que de cette intimité avec le Saint-Esprit, on va ressortir avec 12 bénédictions. De cette consécration que l'on va avoir, du fait que tu vas te consacrer à Dieu, du fait que tu vas te consacrer au Seigneur, tout au long de cette saison, tout au long de cette année, au travers de cette consécration et de cette intimité que tu vas avoir avec le Seigneur va t'équiper. Le Seigneur va te donner un certain nombre de choses qui vont t'aider pour pouvoir conquérir tes promesses durant cette nouvelle année. La première bénédiction que tu vas tirer de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous avons dit que c'était le C, la connaissance de Dieu. Il est important de connaître le Seigneur avant de s'engager dans quoi que ce soit. La première chose que Dieu te révèle lorsque tu rentres dans l'intimité avec lui, il te révèle d'abord qui il est pour toi. Puis il te révèle ton identité. La connaissance de Dieu, c'était le C. Ensuite, nous avons vu la deuxième bénédiction qui était le O, l'onction. Dieu t'équipera toujours. Dieu déposera toujours sur ta vie un manteau qui te permettra d'opérer à une dimension supérieure par rapport aux autres. Tu peux avoir les mêmes talents que les autres, tu peux être compétent comme tout le monde, mais l'onction, c'est-à-dire le manteau que Dieu va déposer sur toi, va te distinguer par rapport aux autres au sein même de la société. Et quand les gens te regarderont et verront tes exploits, ils diront, mais il n'est pas différent de nous. Comment fait-il ? C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a sur ta vie une onction que Dieu a déposée. Et l'onction, j'ai dit, je le répète, ne consiste pas simplement à avoir un micro et se tenir devant des gens et puis crier et cracher dans le micro. Non, ce n'est pas ça juste l'onction. Ça, c'est l'onction pour quelqu'un qui est appelé au ministère, peut-être pastoral. Mais enfin, on n'est pas toujours obligé de crier. Quelqu'un peut parler doucement et avoir une onction sur sa vie. Amen. Et l'onction, tu en auras besoin. La troisième bénédiction, c'était le N comme nature divine. Plus tu passeras du temps dans la présence de Dieu et plus la nature de Dieu va s'imprégner en toi. Sur la base de 2 Corinthiens 3, 18, qui nous dit que nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et nous avons dit que le mot transformé ici, c'est le mot métamorpho en grec, qui veut dire simplement métamorphose. Métamorphose. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans l'intimité, et plus tu es métamorphosé. La quatrième bénédiction que nous avons vue de la consécration, c'était le S, c'est-à-dire la sagesse divine. Il y a une sagesse divine que tu retires de l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la méditation, plus tu passes du temps à écouter le Saint-Esprit, plus tu vas recevoir une sagesse qui va t'aider dans le travail, qui va t'aider à te distinguer dans la société. Pour bâtir un ministère solide, pour bâtir un foyer prospère, pour bâtir une entreprise prospère, il te faut ce qu'on appelle la sagesse. Il y a la sagesse des hommes et il y a la sagesse de Dieu. Et nous avons parlé des différents types de sagesse, je ne vais pas revenir là-dessus, mais la sagesse est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est une des bénédictions que les Juifs ont eues lorsqu'ils sont partis combattre. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il fit son ministère, a réussi à éviter beaucoup de pièges que les pharisiens lui ont tendus parce qu'il avait une sagesse que les autres n'avaient pas. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi la sagesse? La semaine dernière, nous avons continué. Nous avons abordé le E, qui est l'excellence. L'excellence est une clé importante qui peut te distinguer d'une manière extraordinaire dans le monde. Et l'excellence, aujourd'hui, est une vertu qui se fait rare dans notre pays. L'excellence dans la manière de faire, l'excellence dans les affaires, l'excellence dans dans les manières, l'excellence dans les relations que nous avons. L'excellence. Il suffit juste de sortir, d'aller dehors et de regarder simplement l'état de notre pays pour vous rendre compte que la mentalité d'excellence, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et nous avons dit par rapport à ce point-là que quel que soit le domaine dans lequel tu es, quel que soit dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle, si tu es quelqu'un d'excellent, alors tu te feras très rapidement distinguer. Et il y a une mentalité d'excellence que tu acquerras dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que Dieu est un Dieu excellent. Et nous avons même défini le mot excellent. Le mot excellent vient du mot excès et elle. Elle, c'est Dieu. Excès veut dire simplement exceller. Exceller avec Dieu, exceller dans les choses de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons dit en ce qui concerne l'excellence. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le C, la sixième bénédiction. La sixième bénédiction, c'est le C, de consécration, qui veut simplement dire, qui nous parle simplement de la créativité. La créativité, est-ce qu'on peut dire avec moi la créativité? La créativité est un trait de caractère chez Dieu qui est très important. Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur. La Bible nous dit en Genèse 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au verset 26, il dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Et quand on entre en profondeur dans ce texte-là, on découvre que le mot « créa » vient d'un mot hébreu que l'on prononce « bara », B-A-R-A. « Bara » qui veut simplement dire « créer à partir de rien ». C'est-à-dire qu'on n'a rien, mais on crée quelque chose. Et cette faculté, ce don, cette capacité à créer à partir de rien, tous les enfants de Dieu l'ont reçu. Tu l'as reçu. Peut-être que tu ne le sais pas, mais Dieu a déposé quelque chose en toi qui te permet de créer des choses à partir de rien. Rien qu'en commençant simplement à penser. Amen. Et le Saint-Esprit qui habite en chacun d'entre nous est l'esprit de créativité. Donc, tu possèdes en toi l'esprit de créativité. Il est l'esprit d'excellence. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de paix. Il est l'esprit de force. Et il est aussi l'esprit de créativité. Tous les attributs que l'on peut donner au Saint-Esprit, tu les as. Parce que 1 Corinthiens 6, 17 nous dit que celui qui est en communion avec Dieu est avec lui un seul esprit. Le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est le plus grand miracle de la Bible. Ce miracle s'appelle simplement la nouvelle naissance qui stipule que Dieu et toi, vous êtes devenus une seule et même personne. Et parce que Dieu et toi, vous êtes devenus une seule et même personne, tous les attributs que l'on trouve chez Dieu, il est amour, il est saint, il est force, il est sagesse, tout ce qu'il est habite en toi maintenant. Et Dieu dit que pour ces choses-là, tu n'as pas besoin de prier. C'est en toi. Tu as juste besoin de l'activer. Tu as juste besoin de le manifester. On ne prie pas pour l'amour. On manifeste l'amour. On ne prie pas pour la bienveillance vis-à-vis des autres. On manifeste la bienveillance vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on me suit? Amen. Et c'est pareil pour la créativité. Tu peux demander à Dieu, oui, de te donner des idées, etc. Mais la créativité, je t'assure, il suffit juste que tu t'asseyes, que tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, que tu lui recommandes tes projets, et je t'assure, Dieu te donnera des stratégies et des idées pour te distinguer et pour faire ce qu'il faut pour réussir dans le domaine dans lequel il t'appelle. Amen. Plus tu passes du temps dans l'intimité avec Dieu, plus il te donnera de nouvelles idées créatives pour innover dans le domaine auquel il t'appelle. Cette année, cette saison 2014, il ne faut pas que la fin d'année te trouve au même endroit. Il faut que cette année, tu fasses preuve de créativité dans le travail, dans le ministère. Peut-être que le domaine dans lequel Dieu t'appelle a l'air d'être ressemblant par rapport aux autres. Il est peut-être similaire à ce que d'autres personnes font à Libreville. Tu veux te lancer, je ne sais pas moi, dans le domaine des vêtements ou dans le domaine de la restauration. Oui, il y a beaucoup de restaurants dans Libreville. Mais peut-être que toi, lorsque tu vas lancer ton restaurant, il y aura toujours une touche de créativité qui sera différente, qui fera que même que les gens, même si c'est Ngondje, ils viendront manger quand même à Ngondje chez toi. Est-ce qu'on me suit? La créativité. Donc, si tu es différent, si Dieu t'a fait différent, alors fais les choses différemment. Tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on découvre notre identité en Christ. C'est qu'on n'a pas besoin de se comparer aux autres. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Chacun d'entre nous, nous avons reçu des dons et des talents qui nous sont propres. Et ce que Dieu nous demande simplement, c'est de manifester ses dons, de manifester ce qu'il a déposé en nous et de manifester de révéler notre identité au travers d'une entreprise, au travers de notre ministère, au travers d'un produit que l'on va faire, etc., etc. Que ce soit un produit physique ou que ce soit un service, tout ce que Dieu te demande, c'est simplement de manifester les dons et les talents qu'il a déposés en toi et d'y ajouter une touche de créativité. Est-ce qu'on peut dire avec moi la créativité? Oui, la créativité. J'ai même envie d'aller plus loin. Il y a certaines personnes qui passent du temps, passent des années à chercher du travail, à chercher un emploi. Mais si elles faisaient preuve d'un peu de créativité, elles arriveraient peut-être à créer un produit qui pourrait les distinguer et les faire vivre. Est-ce qu'on me suit? Au travers d'une entreprise, au travers d'un service, peu importe. Et cette année, il faut qu'elle soit différente de l'année dernière. Cette année, il faut qu'il y ait une touche de créativité supplémentaire. Il faut qu'il y ait une valeur ajoutée dans ta vie. Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu et que tu dises, Seigneur, bon, ok, à quoi tu m'appelles et en quoi je peux me distinguer des autres? Qu'est-ce que je peux faire qui sera différent des autres? Et je t'assure, tu trouveras. Amen. Créer, c'est partir de rien. Créer, c'est partir de rien. Et amener ce qui n'existe pas à l'existence. Romains 4, 17 nous dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est quelque chose de très particulier chez Dieu. C'est que ce qui n'existe pas, il l'amène à l'existence parce qu'il est la vie. Et Dieu dit que, est-ce que tu sais mon fils, est-ce que tu sais ma fille, que toi aussi, tu peux faire la même chose. Comment est-ce que je crée les choses? Comment est-ce que je peux amener les choses à l'existence? Quel est le processus de création par lequel je peux passer pour amener à l'existence les rêves que Dieu a déposés dans mon cœur? J'ai envie d'aller vite là-dessus, mais j'ai envie de dire que, premièrement, la pensée, tout ce à quoi tu penses, tout ce à quoi tu rêves, tu peux l'amener à l'existence. Deuxièmement, la parole. Dieu crée par la parole, par la foi et par la parole. Tout ce que Dieu veut créer, il crée par la parole. Tout ce que Dieu fait, si vous étudiez la Bible, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il l'annonçait d'abord par la parole. Il annonce toujours par la parole avant. Sa parole le devance toujours. Et nous, les enfants de Dieu, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pour cela que des choses simples comme prier le matin sont nécessaires. Quand tu pries le matin, non seulement tu recommandes ta journée entre les mains de Dieu, mais tu annonces aussi un certain nombre de choses qui vont t'arriver dans la journée. Tu prends possession, tu prends autorité, tu demandes aux circonstances de n'être inclinées en ta faveur, tu déclares des choses, etc. Et la journée se passe comme tu le souhaites, comme tu l'as souhaité. Pas toujours, mais comme tu l'as souhaité. Et comme tu as la capacité, comme tu as reçu ce don divin de créer les choses par la pensée et par la parole, tout ce qui est positif peut arriver, mais tout ce qui est négatif aussi. C'est pour cela qu'un homme dans la Bible appelé Job, qui n'arrêtait pas de se plaindre, avait tout le temps plein de problèmes autour de lui. Et dans le livre de Job, au chapitre 36, Dieu lui apparaît et Dieu dit, mais qui est celui qui obscurcit, qui fait obstacle à mes desseins par ses paroles sans intelligence? Vous ne connaissez pas ce passage? Et Dieu lui dit, mais tu n'arrêtes pas de te plaindre, Job. Est-ce que tu t'es levé un matin pour parler au matin? As-tu déjà parlé aux étoiles, Job? As-tu déjà parlé aux astres? As-tu déjà parlé à la mer? En connais-tu les limites? As-tu déjà parlé à ceci et à cela? Il était en train de dire à Job que tu en as la possibilité, mais le problème, c'est que tu passes plus ton temps à te plaindre et à tirer de mauvaises choses contre toi que de bonnes choses. Et tout ce qui t'arrive, en fait, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Parce que tu as ce pouvoir de créateur là en toi. C'est ce que j'ai déposé en toi. Et comme tu n'arrêtes pas de te plaindre, ben tu vas à l'encontre de ce que moi je vais faire. Amen. Et c'est quelque chose, c'est une grâce que Dieu te fait quand tu passes du temps dans l'intimité avec lui. Il te révèle un certain nombre de choses et il te dit maintenant crée. Maintenant active, parle. Et ensuite tu te mets à travailler. Mais avant de te mettre à travailler, sache que quand tu te mets à travailler, tu es rempli d'assurance et de sérénité parce que tu sais que tu as déjà déclaré des choses. Tu sais qu'elles vont arriver. Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui vit dans le naturel, mais qui opère dans le surnaturel. C'est quelqu'un qui vit dans le naturel, mais quand il déclare les choses, il est convaincu par la foi que ça va arriver. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit à ses apôtres un jour, lorsque vous priez, si vous croyez que ce que vous avez dit, ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu, cela vous arrivera. Vous ne connaissez pas ce passage? Amen. C'est un principe dans la Bible. Créativité, est-ce qu'on peut dire avec moi créativité? La créativité. Septième bénédiction de la consécration, le R, que tu recevras dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Le R, ce sont les relations. Est-ce qu'on peut dire avec moi les relations? Cette nouvelle année, cette nouvelle saison que tu passeras avec le Seigneur, tu vas aller dans la présence de Dieu et je t'invite à prier à ce sujet. De sorte que Dieu puisse t'amener ce qu'on appelle des connexions divines que tu n'avais pas eues en 2013. Et les relations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Personne ne réussit seul dans la vie. Tu ne te lèves pas un beau matin tout seul et puis tu dis « je vais réussir ». Non. Les relations sont très importantes. Tout dans la vie se fait avec des gens. Tu peux avoir un rêve aussi grand qu'il soit, tu auras besoin des gens. Quel qu'il soit, tu auras toujours besoin des gens qui vont t'aider à réaliser ce rêve. Les connexions divines. Il y a une différence entre les relations naturelles et les connexions divines. Les relations naturelles sont les relations que tu crées toi-même ou bien qui se créent à toi. Mais les connexions divines, ce sont des personnes que Dieu lui-même va mettre sur ton chemin. Parce que Dieu connaît la vision qu'il a déposée dans ton cœur en cette nouvelle saison. Il sait que tu as besoin d'un certain nombre de personnes pour l'accomplir. Et ces personnes-là, il va les emmener auprès de toi. Amen. Et ces personnes, tu en auras besoin en cette nouvelle saison. Toutes les fois où Dieu veut te faire opérer à une dimension supérieure dans ta vie, il va toujours le faire au travers de quelqu'un d'autre. Toujours. Toujours. Il y a toujours une personne que Dieu va mettre sur ton chemin qui va t'aider à avancer. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger les gens que Dieu met sur ton chemin. C'est pour cela que tu dois toujours demander à Dieu de te donner le discernement pour pouvoir, comment dire, discerner les gens qu'il met en face de toi, pour savoir qui est bon et qui est mauvais, qui je dois suivre et qui je ne dois pas suivre, à qui je dois demander conseil et à qui je ne dois pas demander conseil. La qualité de tes relations a un impact direct sur la qualité de ta vie. Si tu fréquentes les mauvaises personnes, tu auras des problèmes. Si tu fréquentes les bonnes personnes, tu progresseras. Chaque personne que l'on connaît, chaque relation que nous avons représente en elle-même une possibilité ou une impossibilité. Une porte ouverte ou une porte qui se ferme. Chaque personne. Toutes les personnes. C'est pour cela que toutes les personnes qui représentent des impossibilités dans ta vie, toutes les personnes qui représentent des portes fermées dans ta vie, ces personnes, tu dois t'en éloigner parce qu'elles ne t'apporteront rien dans ta vie. Il y a des personnes avec qui tu marchais en 2013 qui ont été des impossibilités, des portes fermées ou qui t'ont apporté des difficultés. Et aujourd'hui, ces personnes sont encore à côté de toi. Quelle que soit cette personne, tu dois t'en séparer. Parce qu'il y a des personnes que Dieu ne peut pas mettre sur ton chemin s'il y a d'autres personnes à côté de toi. Est-ce qu'on me suit? Les relations, c'est très important. Et les relations, beaucoup de gens ont raté leur destinée, beaucoup de gens ont raté le but de leur vie à cause d'une mauvaise relation qu'ils n'ont pas voulu laisser. Et cette année, en cette nouvelle saison, les relations sont très importantes. De même que les Juifs à Canaan ont eu besoin d'avoir des connexions pour avancer, de même toi aussi tu auras besoin de connexions divines pour avancer en cette nouvelle année. Amen. Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas accomplir son mandat sur terre sans relation, sans connexion. Si vous prenez le temps de lire la Bible, dans le passage, je ne me rappelle plus du chapitre, où Jésus-Christ choisit ses 12 apôtres, le verset qui précède ce passage-là, la Bible dit que Jésus alla prier toute la nuit. Il pria toute la nuit sur la montagne et lorsqu'il descendit au matin de la montagne, il choisit 12 personnes parmi ses disciples. Pourquoi Jésus-Christ avait pris le temps de prier toute la nuit? Parce qu'il savait que s'il faisait une erreur dans ce choix, c'était chaud pour son ministère. Il ne pouvait pas se tromper. Il devait absolument trouver les 12 bonnes personnes. Même Judas était stratégique. Parce que Judas, c'était celui qui allait le livrer. Si Jésus-Christ n'avait pas choisi Judas, il n'y aurait eu personne pour le livrer. Les 12 auraient été trouvés fidèles. Et Jésus-Christ aurait eu un problème. Amen. Donc les relations sont très importantes. Les gens qui t'entourent sont ton meilleur atout pour réaliser ton rêve. Tu as un rêve dans le cœur, cherche les bonnes relations. Tout est une question de relations, tout est une question de réseau. Même en affaires, même dans le business, on a besoin de relations, on a besoin de réseau. Pour ceux qui font des affaires, je pense que je ne leur apprends rien lorsque je leur parle de ça. On a besoin de réseau, on a besoin de relations, on a toujours besoin de se connecter à de nouvelles personnes qui peuvent nous emmener de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, etc. C'est pour cela qu'un entrepreneur est quelqu'un qui doit être tout le temps à l'affût de nouvelles relations. Parce que toute nouvelle relation, c'est un business qui peut se créer. Et cette relation peut ouvrir la porte à une autre relation, etc., etc., etc. Donc les relations positives que Dieu te donne sur le chemin de la conquête des promesses sont très importantes pour réussir. La Bible dit au Proverbe 11, verset 14, « Quand une nation n'est pas bien gouvernée, elle décline. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Et les relations sont là aussi pour ça, pour t'apporter de nouvelles idées, pour t'apporter de nouvelles opportunités, mais aussi pour t'apporter conseils. Il y a des gens avec qui tu vas t'aiguiser, mais il y a aussi des gens avec qui il y a des gens qui vont t'apporter conseils, qui vont t'édifier. Des gens tels que des mentors, des pères, etc. Et tu en auras besoin en cette nouvelle saison. Amen. Les relations, est-ce qu'on peut dire avec moi les relations? Huitième bénédiction de la consécration, c'est le A. Le A qui veut dire simplement autorité. Est-ce qu'on peut dire avec moi autorité? Dieu a besoin d'établir une autorité sur ta vie pour que tu puisses conquérir les promesses. Qu'est-ce que j'entends par autorité? La Bible nous a déjà donné une autorité en tant qu'enfant de Dieu. C'est l'autorité dont Jésus-Christ parle dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 19 lorsqu'il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » En tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, nous avons déjà cette autorité sur le monde des ténèbres. Nous avons déjà cette autorité pour pouvoir dominer le monde des ténèbres. Mais cette autorité-là, tu ne la manifestes pas comme ça. Cette autorité-là, elle doit grandir. Cette autorité-là, elle doit se développer. L'enfant d'un roi, même s'il est l'enfant du roi, en l'absence du roi, bien entendu, le serviteur pourra toujours brimer l'enfant. L'enfant ne pourra pas manifester son autorité vis-à-vis du serviteur dans la maison, sauf quand papa est là. Et même si papa est là et que l'enfant dit au serviteur, fais ceci ou fais cela, le serviteur dit non, on ne lui fera pas grand-chose. Mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir, cette autorité va grandir et va s'affermir dans sa vie. Amen. Et de même, nous aussi, nous avons besoin de cultiver l'intimité du Saint-Esprit. Et plus on cultive cette intimité, plus on travaille avec Dieu dans notre vie, plus on implique Dieu dans notre vie et plus Dieu fait asseoir une autorité pour pouvoir exercer notre ministère. Amen. C'est très important. L'autorité. Voilà pourquoi, en cette nouvelle saison, on a besoin d'aller chercher la face de Dieu. On a besoin de développer cette autorité. Cette autorité, non seulement va nous servir, quel que soit le domaine d'ailleurs, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de nos projets, que ce soit en termes de leadership, si tu as des personnes sous ta responsabilité, que ce soit au niveau spirituel, parce que tu rencontreras des adversités, tu rencontreras des difficultés, Satan se mettra en travers de ton chemin, le diable ne te laissera pas prendre possession des promesses comme ça. Surtout lorsque le diable discerne que tu as une grande destinée, il te fera front et face. Amen. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le diable n'existe pas. Il m'a dit, je ne crois pas au diable, le diable n'existe pas. Et je lui ai répondu, alors tu es en grand danger. Tu es en grand danger, parce qu'apparemment il a gagné. La pire chose, la plus grande victoire du diable, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Pas de te faire croire que Dieu n'existe pas. Parce que la plupart des gens croient que Dieu existe. Mais c'est de te faire croire que lui, il n'existe pas. Et s'il arrive à te faire croire ça, alors tu es en danger. Tu es en danger sur le chemin de ta destinée. L'autorité, est-ce qu'on peut dire avec moi l'autorité? L'autorité sur les circonstances, l'autorité sur les cœurs des gens. Jésus-Christ lui-même avait besoin d'autorité. Jésus-Christ lui-même, avant le baptême dans le Jourdain, avant l'expérience du désert, Jésus-Christ n'avait pas la même autorité. Jésus-Christ vivait comme tout le monde. Il allait à la synagogue comme tout le monde. Il lisait la Torah comme tout le monde. Mais après l'expérience du Jourdain et du désert, la Bible nous dit dans le livre de 4:32, lorsqu'il commença à prêcher, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Et le mot autorité ici, c'est le mot grec exousia. E-X-O-U-S-I-A. Exousia qui veut simplement dire avoir un accès au cœur des gens. Un accès au cœur des gens. Il y a des domaines dans la vie où quand Dieu t'amène à faire quelque chose, que ce soit au travers d'un message ou que ce soit au travers d'un événement même que tu organises, tu as une manière d'amener les choses, tu as une manière d'amener la parole, tu as une manière d'amener le message ou l'événement ou autre qui fait que quand les gens te regardent, quand les gens t'écoutent, il y a un accès dans leur cœur que tu n'avais pas avant. Est-ce qu'on me suit? Et cet accès-là, cette permission-là, cette ouverture-là que tu as, c'est Dieu qui l'a fait par rapport au manteau d'autorité qu'il dépose sur ta vie. Il y a des oppositions auxquelles tu ne pouvais pas faire face avant, spirituelles. Mais tu vas voir que quand tu vas sortir de l'intimité avec le Saint-Esprit en cette nouvelle saison, tu n'auras même pas besoin de prier une heure. Tu diras juste une parole et tu verras comment les choses vont se stopper net. Parce que tu auras grandi. Parce que ton autorité aura été affermie. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi autorité? Neuvième bénédiction de la consécration. Le T. Le T, c'est le temps. Le temps. Tu auras besoin de temps. Le temps, je t'assure, ne joue pas en ta faveur. La plupart des gens que vous connaissez autour de vous n'ont pas une très bonne notion du temps. Dans la saison de la conquête des promesses, en cette nouvelle saison, Dieu inclinera le temps en ta faveur pour que tu puisses accomplir ce qu'il attend de toi. Pourquoi est-ce qu'il va faire cela? Parce que Dieu sait que tu as besoin de temps. Et Dieu sait que le temps court très vite. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, au verset 20, il est écrit ceci. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Le temps. Si tu es intime avec Dieu et si tu te consacres, Dieu changera le temps et les circonstances en ta faveur. Dieu inclinera le temps pour toi. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais tu verras comment le temps jouera en ta faveur. Tu verras comment tu auras des accès. La personne la plus pauvre sur terre n'est pas la personne qui a le moins d'argent. La personne la plus pauvre sur terre est la personne qui n'a aucune notion du temps et qui le gaspille. Quelle est la différence entre celui qui crée de la richesse et celui qui n'en crée pas? Pourtant, les deux sont des êtres humains. La Bible dit dans le livre des Proverbes que les deux ont été créés par Dieu. C'est ce qu'ils ont en commun. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le riche et le pauvre, dit Salomon dans le proverbe? C'est simplement parce que les deux n'utilisent pas le temps de la même manière. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens avec qui tu étais sur le même banc de l'école il y a quelques années et aujourd'hui, eux, ils opèrent à une certaine dimension et toi, tu opères à une dimension moindre. C'est parce qu'apparemment, ce n'est pas qu'il a eu plus de chance que toi. C'est parce qu'apparemment, oui, il a eu des possibilités, mais peut-être parce qu'il a utilisé le temps mieux que toi. Amen. Et ceux qui ne sont pas intimes avec Dieu n'ont pas ce privilège-là de voir le temps être incliné en leur faveur. La notion du temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes pour conquérir les promesses. Et tu ne devras pas le gaspiller, tu devras l'optimiser. Parce que Paul nous dit en Éphésiens 5, verset 16, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Qu'est-ce que ça veut dire les jours sont mauvais? Ça veut dire que l'année passe très vite. Ding dong, tu n'as pas remarqué qu'on est déjà en février? Janvier est déjà là. Février est déjà là, janvier est déjà fini. Et février, qui est un mois beaucoup plus court, qui est le mois le plus court de l'année, va passer très vite. Et tu vas te rendre compte dans quelques semaines que, oh, mais on est déjà en mars. On est déjà en mars, l'été approche à grand vent. Et tu auras besoin du temps. C'est pour cela que tu dois être productif, tu dois travailler, tu dois maximiser tes relations, tu dois maximiser ton travail, tout ce que tu fais, parce que tout simplement, le temps ne joue pas en ta faveur. Mais pour que le temps puisse jouer en ta faveur, tu dois avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Je vais vous raconter une histoire. Vous ne vous rappelez pas dans le livre de Josué, lorsque Josué était en train de livrer bataille avec le peuple juif dans une ville que l'on appelait Haï. Haï. La Bible dit que le combat perdurait. Le combat ne finissait pas. Et la nuit était en train de tomber. Et Josué, sachant que si la nuit tombait, ils allaient être en désavantage. Qu'est-ce que Josué fit? Josué, qui est un habitué de l'intimité de Dieu, fit une prière que jamais un autre homme n'a pu faire sur la terre. Josué leva la tête au ciel et dit que le soleil s'arrête. Simple, c'est écrit dans la Bible. Hein. Ce monsieur a arrêté le soleil. C'est un passage en général qu'on passe parce qu'on se dit, oh, ce sont les histoires pour enfants qui sont dans la Bible. Non, il a arrêté le soleil, ce monsieur. Et la Bible dit que le soleil s'arrêta plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils remportèrent la bataille. Et il est écrit au verset d'après que Dieu arrêta le soleil ce qu'il ne fit plus jamais pour un autre homme sur la terre. Ça, c'était quelqu'un d'intime avec Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Et c'est quelqu'un qui avait une telle autorité sur la terre, aux yeux de Dieu, que quand il demande quelque chose, tout comme Christ a dit en Matthieu 18, 16, tout ce que tu permettras sur la terre sera permis dans les cieux, tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans les cieux. Je te donnerai les clés du royaume. Et là, c'est une clé qu'il avait activée. Il dit, soleil, arrête-toi, on n'a pas fini de combattre. Ça m'est déjà arrivé une fois, je voulais sortir, il pleuvait tellement fort que je me mis sur la terrasse et je lui ai dit, pluie, arrête-toi. Malheureusement, la pluie ne s'est pas arrêtée pour moi. Et j'ai dû attendre qu'elle finisse. Je n'ai pas encore suffisamment d'autorité. Le temps, est-ce qu'on peut dire avec moi le temps? Le temps. Le temps est ce que nous voulons tous le plus. Mais c'est aussi ce que nous gaspillons le plus. Lorsque nous gérons bien notre temps, nous réalisons des exploits avec Dieu. Mais lorsque nous le gérons mal, on ne réalise rien. On a plus de problèmes qu'autre chose. C'est la principale ressource pour produire, pour créer de la richesse. C'est pour cela qu'il faut le maximiser. Et le meilleur investissement que tu puisses faire, c'est celui de ton temps dans la présence de Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu reçois des stratégies, des idées, de la créativité pour ensuite aller dans le naturel, travailler et porter du fruit. Amen. Et il y a un pasteur qui a dit une parole que j'aime beaucoup, un pasteur anglophone qui a dit ceci, j'aime beaucoup cette parole, il dit, prenez le temps de travailler, c'est le prix du succès. Prenez le temps de penser, c'est la source du pouvoir. Prenez le temps de lire, c'est le fondement de la connaissance. Prenez le temps de rire, c'est la musique de l'âme. Prenez le temps d'être courtois, c'est la démarche du gentleman. Prenez le temps de prier, c'est la respiration du chrétien et la chose la plus importante. Amen. Le temps. Dixième bénédiction que l'on reçoit dans une vie consacrée, intime avec le Saint-Esprit, c'est le « I ». « I », c'est l'intégrité. Est-ce qu'on peut dire avec moi « intégrité » ? L'intégrité. L'intégrité est un sujet que j'ai particulièrement étudié dans la parole. C'est un sujet qui ne revient pas très souvent dans les messages que l'on écoute autour de nous. L'intégrité est une valeur rare dans notre société actuelle. L'intégrité, pourquoi c'est une valeur rare? Parce que l'intégrité est le fondement même du caractère. Le socle même du caractère chez un homme, c'est son intégrité. C'est ton caractère qui te guidera au jour de la détresse, face au compromis que tu rencontreras sur le chemin de la conquête des promesses. Si tu n'es pas intègre, tu tomberas. Cette année, je te rassure tout de suite, cette année, tu vas être confronté au compromis. Cette année, tu vas rencontrer des situations qui vont te pousser à te compromettre, qui vont te pousser à remettre ta foi en question, qui vont te pousser à faire des choses en cachette, qui vont te pousser à faire même, pourquoi pas, des choses pas bien. L'intégrité, c'est cela qui te gardera. Qu'est-ce que l'intégrité? Le dictionnaire définit l'intégrité comme l'état d'une chose qui est demeurée intacte. Quand je suis intègre, mes mots et mes actes vont de pair. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je suis qui je suis, peu importe où je suis et avec qui je suis. Mes actes et mes mots restent les mêmes. L'intégrité. Et Dieu accorde une place capitale à l'intégrité quand il attend quelque chose de quelqu'un. Quand Dieu veut travailler avec toi, il va toujours regarder si tu es quelqu'un d'intègre. Parce que la plupart des gens sont changeants. La plupart des gens, ils disent quelque chose au début, et puis tu laisses un peu de temps, et puis tu te rends compte qu'ils ont changé. Tu te rends compte qu'ils changent. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu commences à marcher avec lui, et tu découvres que, au début, il est bien. Mais après, tu ne comprends pas pourquoi il a changé. Il dit des choses, il s'engage même dans des choses, mais avec le temps après, il ne les fait plus. L'intégrité, ça veut dire qu'il y a une faille dans le caractère. L'intégrité, est-ce qu'on peut dire avec moi l'intégrité? Et lorsque les disciples posent à Jésus la seule question qu'ils ont posée à Jésus dans les quatre évangiles, lisez bien les quatre évangiles, les disciples ont posé une seule question à Jésus. Une seule question, une vraie question. Ils ont dit, Seigneur, comment est-ce que nous devons prier? Jésus-Christ leur dit, voici comment vous devez prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., etc. Lorsque Jésus-Christ leur dit de faire cette prière, il y a deux choses très importantes que Jésus-Christ leur fait comprendre. Parce que quand tu pries, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Et la plupart des enfants de Dieu, malheureusement, ne savent pas à qui ils s'adressent. C'est pour cela que Dieu ne les exauce pas. Parce que Dieu dit, toi tu me parles, tu me demandes des choses, mais tu ne sais même pas à qui tu t'adresses. La première chose que Jésus-Christ leur dit de dire, c'est notre Père qui est aux cieux. En hébreu, en grec ici, le mot Père, c'est le mot Abba, A-B-B-A, qui veut dire la source de toutes choses. Notre Père, c'est-à-dire notre source. Toi qui es ma source, tu es où situé aux cieux. Et la deuxième chose qu'il lui dit, il dit, vous devez dire que ton nom est saint, ou bien encore que ton nom soit sanctifié, ou encore une autre version dit dans la Bible, se meurt, tu t'appelles saint. C'est-à-dire celui qui ne change pas, c'est-à-dire celui qui est intègre. La sainteté égale intégrité. Quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui ne change pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il dit quelque chose, sa parole l'engage. C'est pour ça qu'il ne parle pas beaucoup, le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que tout ce qu'il dit devient une loi pour lui-même. Parce que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans la parole, c'est que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui-même. Donc tout ce qu'il dit te concernant ou le concernant, ça l'engage automatiquement. C'est pour ça que Dieu ne parle pas beaucoup. Et les gens sages, en général, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui sont très calmes, qui ne parlent pas beaucoup. Ce sont des gens qui passent plus leur temps à écouter les autres, mais ils ne parlent pas beaucoup. Et l'intégrité est un trait de caractère très prononcé chez Dieu. Le premier trait de caractère que l'on trouve chez Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et le deuxième trait de caractère, c'est qu'il est intègre. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Amen. Et c'est ce que Dieu attendait d'Abraham, pour parler de quelqu'un un peu. Abraham est quelqu'un à qui Dieu avait fait une promesse, comme pour beaucoup d'entre nous. Dieu avait dit à Abraham, tu auras un enfant l'année prochaine, à la même période. Mais Abraham, en un an, il fit beaucoup de choses. Il alla en Égypte, il mentit au roi d'Égypte, on a failli tuer les autres à cause de son mensonge, il sortit d'Égypte, et en plus quand il sort d'Égypte, il sort avec des affaires qui ne lui appartiennent pas. Alors qu'on ne lui a pas demandé de prendre ses affaires. Dieu ne lui avait pas demandé de prendre les affaires. C'est Abimelech qui a pris les affaires et qui lui a donné. Mais lui, il aurait pu dire, non, je suis béni, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais gourmand comme il était, il prend et il sort. Et en plus, quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de laisser la pauvre servante qui était là, il prend la servante et il emmène la servante avec lui. Dieu ne lui avait pas demandé tout ça. Intégrité. Et regardez ce que Dieu lui dit. Après que Dieu ne lui ait plus parlé pendant des années, Dieu lui dit en chapitre 17 au verset 1, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire 13 ans après la naissance de Ishmaël, parce qu'il est sorti d'Égypte avec Agar et Sarah, il va tomber amoureux de Agar, il va trouver des stratèges et puis il va aller faire un enfant avec Agar. Parce que oui, rassurez-vous, hein, ce n'est pas Sarah qui a envoyé Abraham chez Agar. Lui, il guettait la femme là depuis très longtemps déjà. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est quel mari qui est fidèle à sa femme. Et puis sa femme lui dit, bon, je n'arrive pas à avoir l'enfant, je suis stérile. Va chez la servante. Et puis lui dit, ok, d'accord, j'y vais. Il guettait la femme depuis très longtemps. Il guettait cette femme depuis très longtemps. Donc pour lui, il n'attendait que ça. Que ça. Et 13 ans après, Dieu apparaît à Abraham et Dieu dit, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En hébreu, ici, c'est El Shaddai. Et il dit, marche devant ma face et sois intègre. Pourquoi Dieu dit une telle parole? Sois intègre. Parce qu'il dit, je t'ai observé depuis toutes ces années. Tu manques d'intégrité, Abraham. Tu as un problème de caractère. Et moi, je ne peux pas tisser une alliance avec un gars qui a un problème de caractère comme ça. Le Christ doit venir sur terre. Et au travers de toi en plus. Donc, il faut que tu sois intègre, jeune homme. L'intégrité. Donc, ce ne sont pas nos actes dans la vie qui déterminent notre identité personnelle. C'est notre identité, les valeurs que nous embrassons, qui déterminent les actes que nous allons poser. Et cette année, en cette saison, tu auras besoin d'intégrité. Parce que je t'assure, la vie ne te fera pas de cadeaux. Et le diable ne te laissera pas entrer en possession des promesses comme ça. Il va te combattre. Et quand le diable te combat, c'est l'enseignement que nous verrons au mois de mars, quand le diable te combat, il t'envoie tout un tas de stratèges pour te dérouter de ton chemin. Il t'envoie ce qu'on appelle des esprits méchants, par exemple. Il va t'envoyer des esprits de séduction, il va t'envoyer des esprits de distraction, des esprits d'assoupissement, La ruse, la Bible nous montre, pendant la saison de la conquête, lorsque Josué était avec le peuple en Canaan, il y a des gens qu'on appelle les Gabaonites. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent les Gabaonites. Là, on en fait penser aux Gabonais, mais moi, ce n'est pas des Gabonais. Les Gabaonites vinrent auprès des Juifs et agissèrent, la Bible dit, avec ruse et mentirent au peuple juif qu'ils venaient d'un pays très lointain. Et qu'est-ce que Josué fit? Manque de discernement pour ne pas les tuer. La Bible dit que Josué tissa une alliance avec eux. Il tissa une alliance avec eux. Donc, Dieu, selon leur loi, leur interdisait d'accepter des étrangers au milieu d'eux. Parce que les étrangers ramenaient tout un tas de choses. Et ils tissaient une alliance. Et quand ils avancèrent dans la conquête, ils découvrirent, quelques mois plus tard, qu'en fait, ce peuple était un peuple voisin. Ce n'était pas un peuple lointain comme ils avaient menti. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous nous avez fait? Vous nous avez menti. Et aujourd'hui, nous avons péché contre notre Dieu parce que vous nous avez menti, vous avez agi avec ruse. Et les Juifs voulurent les tuer. Mais Josué les arrêta en disant, nous avons fait alliance avec eux. Si on les tue, c'est sur nous que ça va retomber. Et jusqu'à ce jour, les Gabaonites restèrent esclaves au milieu des Juifs. Mais ils ramenèrent tous leurs dieux et leurs valeurs étrangères au milieu du peuple. Et le peuple se corrompit quelques années plus tard. Danger. Et c'est pareil avec nous-mêmes. Il y a des gens comme ça que tu vas accepter parce que tout simplement, au travers de le diable va envoyer des ruses pour t'amener des problèmes. Il y a des gens, je t'assure, ils t'amènent plus de problèmes qu'autre chose. Et dans la saison de la conquête, tu auras besoin d'intégrité. L'intégrité te garantit la protection de Dieu. Psaume 41, verset 12. David dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Proverbe 2, verset 7. Salomon dit, il tient en réserve, qui Dieu? Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles. Proverbe 10, verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. L'intégrité. Et tu en auras besoin cette année. Amen. Donc plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans la consécration et dans l'intimité, et plus ce trait de caractère chez Dieu va s'affirmer chez toi. Parce que Dieu sait que tu en auras besoin dans la saison de la conquête. Amen. L'intégrité. Onzième bénédiction de la consécration. Le haut, avant-dernière. Le haut fait référence à l'obéissance. L'obéissance. L'obéissance est une force redoutable face à l'adversité. La Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quel que soit le montant de tes offrandes, quelle que soit la beauté de ton visage, quelle que soit ton honnêteté ou ta bonne moralité, si tu n'es pas quelqu'un d'obéissant à la parole de Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Dieu regarde à l'obéissance. Et l'une des armes les plus puissantes pour combattre le diable, c'est l'obéissance. Face à l'adversité, face au diable, le diable voudra toujours t'amener à désobéir. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'obéissance va provoquer quelque chose de très important, c'est que l'obéissance va te faire sortir de la présence de Dieu. Quand le diable arrive à initier le péché dans ta vie, il y a comme une protection qui s'enlève sur ta vie. Et là, il peut entrer et te faire du mal. Et pendant la saison de la conquête, tant que tu resteras dans l'intimité, tant que tu marcheras dans la consécration, tant que tu marcheras dans la sainteté et la consécration vis-à-vis de Dieu, Dieu te garantira sa protection, Dieu te protégera. Amen. Le malheur ne viendra pas frapper à ta porte en 2014 au nom de Jésus-Christ. Et le malheur ne frappera ni un membre de ta famille, ni un de tes proches, parce que tout simplement, tu as une alliance avec Dieu et que dans cette alliance, il y a une promesse que l'on appelle la protection divine. Et parce que cette protection divine engage celui qui a initié l'alliance, c'est-à-dire Dieu, alors Dieu te protégera. Mais Dieu ne peut pas te garantir sa protection en cette nouvelle saison si tu pèches, si tu rends l'alliance caduque, si tu rends l'alliance nulle. C'est pour cela que le diable, la Bible dit, il rôde. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La meilleure manière de combattre le diable, c'est de lui résister. Pourquoi résister? Parce qu'il va venir avec force. Il va oppresser. Il va forcer l'entrée. Mais toi, la seule manière que tu auras de lui résister, c'est d'affirmer ta foi. Et je t'assure, je le répète, en la saison de la promesse, je t'assure, ta foi sera remise en question. Il y a des situations que tu vas vivre cette année qui vont remettre ta foi en question. Mais il y a aussi des situations que tu vas vivre cette année qui vont te demander aussi d'affirmer ta foi. Quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'appelle, tu vas devoir faire un pas de foi géant. Parce que Dieu n'attend que ça, la foi. Dieu fonctionne par la foi, Dieu agit par la foi. Et si tu fais les choses en fonction de ton environnement naturel, tu ne peux pas avancer avec Dieu. Parce que Dieu est surnaturel. Ce que nous appelons surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Et Dieu, dans son monde naturel, fonctionne avec la foi. Tout fonctionne avec la foi. Et la foi est ce qui te permet de fonctionner. Et si Satan arrive à affecter cet aspect-là chez toi, il sait que tu es fini. Tant que tu restes dans l'intimité et que tu marches dans l'obéissance, la grâce de Dieu reposera sur ta vie. Amen. Et enfin, dernier point, la douzième bénédiction de la consécration que l'on a avec le Saint-Esprit, le N. C'est le nom. Le nom. N-O-M. Au temps de Josué, tout le pays, quand on regarde la Bible, avant même que les Juifs entrent à Canaan, tout le pays était déjà au courant de leur arrivée. C'est-à-dire, les gars n'avaient même pas commencé à combattre, mais tout le pays était déjà effrayé. Tout le pays avait peur des Juifs. Quand les deux espions sont allés à Jéricho, et ils ont rencontré Rahab, Rahab dit, tout le pays a peur de vous, car on a appris ce que Dieu a fait au travers de vous. Et Dieu fonctionne comme ça. Quand tu es quelqu'un d'intime avec Dieu et que tu commences à travailler pour Dieu et avec Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait, c'est que tu es seul dans ton coin, tu ne sais pas comment, mais il y a une publicité à ton sujet. Dieu va commencer à faire parler de toi. Il y a des gens qui vont commencer à te recommander sans même que tu le saches. Tu vas juste voir les opportunités arriver. Et je t'assure, quand tu marches avec Dieu par la foi, tu n'as pas besoin de chercher à faire ta propre publicité. Les portes vont s'ouvrir tout seules. Et en cette année, en cette nouvelle saison de la conquête des promesses, je t'assure, si tu es quelqu'un d'intime avec Dieu, de discipliné, de rigoureux et de travailleur, je t'assure, fais juste ce qu'il faut. Le reste, laisse Dieu gérer. Et tu vas voir comment Dieu va t'étonner. Y a-t-il étonnant quelque chose de la part de l'Éternel, dit Esaïe? Rien d'étonnant. Quel que soit la hauteur des opportunités que tu souhaites avoir dans ta vie, si tu es quelqu'un qui marche avec le Seigneur par la foi, je t'assure, travaille et tu vas voir, la porte s'ouvrira. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse 12, au verset 2, que l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai quoi? Ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. C'est une promesse de l'Alliance. C'est une promesse que Dieu a vis-à-vis de nous. Dieu s'engage. Dieu s'engage. Si tu es trouvé fidèle, obéissant, intègre et agréable, Dieu s'engage à t'élever. Dieu dit, je t'élèverai. Dieu n'a aucun problème à élever quelqu'un. Dieu n'a aucun problème à rendre quelqu'un célèbre dans son domaine à lui. Dieu n'a aucun problème avec ça. Si cet homme est trouvé humble devant lui, l'humilité n'est-elle pas le secret de la grandeur? La Bible nous dit que si. Donc, la renommée ou encore le nom que tu portes, Dieu y déposera une grâce particulière quand tu passes du temps dans l'intimité avec lui. Si tu es un intime du cœur de Dieu, je t'assure, il y a une grâce particulière que Dieu va déposer sur ta vie qui va te distinguer au milieu de tes contemporains. Les gens vont juste te regarder et vont juste dire, on ne sait pas comment il fait pour avoir de tels accès, mais il y a une grâce sur sa vie qui fait que son nom est connu, qui fait que son nom est recommandé. Quel que soit le business dans lequel tu t'engages, sois trouvé fidèle. Sois trouvé intègre. Travaille. Et tu verras la grâce que Dieu déposera sur ton entreprise. Tu n'auras même pas besoin de faire de la publicité. Il y a des entreprises comme ça. Elles ne sont jamais passées à la télévision. Elles n'ont jamais fait de publicité. Mais ce sont les meilleures sur le marché. Comment? Parce que dans le réseau, dans le milieu, tout le monde recommande cette entreprise-là. Elle se distingue par la qualité de son service, par l'excellence, par son accueil, etc., par la qualité de ses produits. Mais elle ne fait jamais de campagne marketing. Mais c'est elle qu'on met en avant. Est-ce qu'on me suit? La renommée. Jésus-Christ lui-même a expérimenté ça. Jésus-Christ ne faisait pas sa publicité. C'était les gens qui parlaient de lui. Lui, tout ce qu'il faisait, il travaillait. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, au verset 37, la Bible dit, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans tout le pays. Ce n'est pas lui qui parlait, c'est les gens qui parlaient de lui. Et j'ai envie de finir en disant, laisse Dieu parler de toi. Quel que soit le domaine dans lequel tu t'engages aujourd'hui, quel que soit ton appel, quel que soit ton ministère, consacre-toi, travaille, fais confiance au Seigneur, marche par la foi, sois excellent, laisse Dieu travailler pour toi et tu verras. Tu verras, Dieu t'étonnera. Dieu fera bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou même penser. Amen. La consécration. On va incliner la tête et on va prier. La consécration, c'est la première instruction que Dieu a donnée au peuple juif. C'est la première instruction que Dieu nous donne à nous. Le C pour la connaissance de Dieu. C'est la première bénédiction que nous recevrons. Le O pour l'onction. C'est l'onction que nous recevons sur notre vie. Le manteau que nous portons. Le N, sa nature. Nous sommes imprégnés de sa nature chaque fois que nous sortons de sa présence. Le S, nous recevons une sagesse divine qui nous distinguera au milieu de nos pères. Le E, l'excellence. Nous recevons une mentalité d'excellence, une mentalité de prestige, une mentalité de luxe, une mentalité qui nous distingue également de nos pères. Et tu en auras besoin dans la saison qui s'annonce. Le C, pour la créativité. Dieu te donnera une créativité que tu n'auras jamais eue auparavant. Le R, pour les relations. Il y a des relations que Dieu va t'amener, des connexions divines que tu n'avais pas en 2013, mais que tu auras en 2014, si tu es trouvé intime avec Dieu. Le E comme excellence, mentalité d'excellence. Excellence dans tout ce que tu fais. Excellence dans le travail. Excellence dans les affaires. Excellence dans les relations. Excellence dans la parole. Excellence dans tes habitudes. La consécration, l'excellence. Le T, le temps. Le temps, avant, ne jouait pas en ta faveur, mais Dieu va disposer les temps et les circonstances, car il est celui qui change le temps et les circonstances en ta faveur. Le I, comme l'intégrité, le socle de ton caractère. Le caractère, c'est le socle du leadership. Le caractère, c'est le socle de la réussite. Le caractère, c'est tout. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre du temps, tu peux perdre des amis, mais si tu perds ton caractère, tu as tout perdu, l'intégrité. Le O de l'obéissance. L'obéissance, si tu es quelqu'un d'obéissant, tu es quelqu'un d'agréable à Dieu. Et Dieu attend de toi que tu sois obéissant, car l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Le O de l'obéissance. Et enfin le N, le nom, la renommée. Tu n'auras pas besoin de parler, tu n'auras même pas besoin de faire beaucoup de publicité. Tu verras que demain, c'est Dieu lui-même qui fera ta publicité. La consécration. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la révélation de ta parole qui éclaire, qui donne de l'intelligence aux simples. Merci pour ta parole qui nous édifie. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci pour ta parole qui nous restaure. Merci pour ta parole qui nous construit, Seigneur. Merci pour ta parole qui vient encore bâtir ton caractère en nous. Nous te rendons grâce en cette saison de la conquête des promesses, en cette saison où nous nous attendons à toi. Le psalmiste dit dans le psaume 130 au verset 5, « Je m'attends à toi, ô Éternel, je m'attends à ta promesse. » Seigneur, merci pour les promesses que tu as pour nous dans ton alliance. Merci parce que, Seigneur, ces promesses sont disponibles et tu nous accordes la grâce en cette nouvelle saison d'entrer en possession de ces promesses. De sorte qu'à la fin de cette année, nous viendrons à ta maison et nous témoignerons de ta bonté et de ta fidélité, Seigneur, à notre rencontre. Nous dirons que nous avons entendu ces paroles prophétiques au début, nous les avons saisies et nous les avons mises en pratique. Nous avons attendu et nous avons vu la gloire de Dieu être manifestée dans nos vies. J'ai juste envie de nous encourager à poser des actes de foi, à travailler avec foi, à planter une semence. Il y a quelques semaines de cela, nous sommes encouragés à semer une semence d'un multiple de 12. Que ce soit 12 000, que ce soit 24 000, un multiple de 12 comme pour chaque mois de l'année. Et chaque début d'année, je nous encourage à toujours faire ce genre de pas de foi où on sème, où on travaille, où on se lève et on s'engage vis-à-vis de l'Éternel. Seigneur, merci. Parce qu'en cette nouvelle saison de la conquête des promesses, en cette nouvelle année, Seigneur, tes promesses se manifesteront, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, les promesses vis-à-vis de notre foyer, les promesses vis-à-vis de nos enfants, promesses de fécondité. À celle qui est stérile, elle enfantera et tu en feras une mère joyeuse au milieu de ses enfants. À celui, Seigneur, qui est au chômage, il trouvera, Seigneur, un travail où il se créera lui-même son propre travail et, Seigneur, déploiera son potentiel, le potentiel que tu as libéré en lui, Père, au nom de Jésus. À celui qui est malade et qui voit sa maladie comme un obstacle, Seigneur, pour vivre les promesses de Dieu, Seigneur, tu lui accorderas la grâce de vivre et d'expérimenter un miracle sans précédent, Seigneur, une guérison sans précédent, Seigneur, qui lui permettra de se tenir debout et de travailler à l'appel qu'il a sur sa vie. Seigneur, merci, parce que l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, tu la rends parfaite. Merci pour ta grâce. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour ta vie. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Paraclétos. Merci pour ce merveilleux conseiller que tu es, Seigneur. Merci pour tous tes conseils qui nous accompagneront tout au long de cette année. Accorde-nous la grâce de maximiser et d'optimiser notre temps, Seigneur, et de l'investir, d'être productif, de porter du fruit. Il faut que des produits sortent de nous. Pour ceux qui doivent écrire des livres, qu'ils écrivent des livres. Pour ceux qui doivent écrire des chansons, qu'ils écrivent des chansons. Pour ceux qui doivent créer des entreprises, qu'ils créent des entreprises. Pour ceux qui doivent rentrer dans leur ministère, qu'ils rentrent dans leur ministère. Mais Seigneur, que cette année voit la réalisation, la concrétisation et la manifestation des promesses de l'alliance que tu as, Seigneur, envers nous. À toi soit la gloire et la louange, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous croyons que toutes ces paroles que nous avons partagées tout au long de ces semaines, Seigneur, seront manifestées dans nos vies. Nous les scellons dans le sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies. À toi la gloire, à toi la louange, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'un véritable adorateur peut acclamer le Seigneur simplement? Merci Seigneur, pour tout ce que tu es, merci Père. Merci, sois exalté, sois glorifié. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.